Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Indonésie exhorte l'Assemblée générale des Nations unies à réaliser un cessez-le-feu à Gaza. Président Prabowo inaugure le tunnel Silaturahim à Jakarta. Ministère des Affaires étrangères a déclaré que 37 citoyens indonésiens étaient rentrés avec succès en Indonésie depuis la Syrie. BAD affirme que le ratio dette de l'Indonésie au PIB est relativement faible. Indonésie envoie un contingent au défilé de la République indienne. Gouvernement provincial de Papouasie espère que la voie commerciale frontalière augmentera la promotion des MPME Papou. Voici le journal complet. L'Indonésie a soumis un projet de résolution concernant la situation dans la bande de Gaza en Palestine, intitulé « Demande de cesser le feu à Gaza ». Comme l'a rapporté un communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères, jeudi 12 décembre, la résolution a été présentée lors de la session d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis, mercredi 11 décembre. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a souligné dans sa déclaration que le monde peut protéger des millions de civils à Gaza, réduire leurs souffrances et entamer des démarches vers la justice et la paix par un cessez-le-feu. Nasir a souligné que la communauté internationale doit agir immédiatement pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines et de nouvelles destructions. C'est pour cette raison que la résolution proposée par l'Indonésie appelle un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent peut être atteint. Cette session s'est tenue à la suite du veto des États-Unis à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu à Gaza le 20 novembre. Le président Prabowo Subianto a inauguré jeudi 12 décembre le tunnel Silaturahim à Jakarta qui relie la mosquée Istiqlal à l'église cathédrale. Cité par Antara, Prabowo dans son discours a admis qu'il était très heureux d'assister à cette inauguration car ce tunnel est considéré comme un symbole d'harmonie entre les communautés religieuses. Selon lui, la nation indonésienne a une caractéristique unique et fière, à savoir rester harmonieuse au milieu de toutes les différences.
Suatu bangsa yang berbeda, agama berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah.
Une nation avec des religions différentes, des tribus différentes, des groupes ethniques différents, des races différentes, des langues régionales différentes, des coutumes différentes, mais peut être unie, peut être harmonieuse. parce qu'elle a les mêmes idéaux, à savoir réaliser un avenir qui puisse donner un bonheur à tout peuple indonésien. Le président Prabowo a ajouté que les Français ne devraient pas être un diviseur ni une source de division pour la nation indonésienne, mais plutôt constituer une richesse et fournir l'énergie à l'Indonésie. Selon lui, pendant la lutte pour l'indépendance, tous les groupes ont payé leur part pour le pays avec du sang, de la sueur et des larmes. Le tunnel Silaturahim Istiqlal Cathédrale mesure 28,3 mètres de long, 3 mètres de haut et 4,1 mètres de large et est conçu pour faciliter les visiteurs de la mosquée Istiqlal et de l'église cathédrale. La construction de ce tunnel s'est effectivement achevée le 20 septembre 2021. Mais l'accès au public n'a pas encore été ouvert car il reste encore des travaux supplémentaires à terminer. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a rapporté que 37 citoyens indonésiens WNI évacués de Syrie ont réussi à rentrer en Indonésie en douceur et en toute sécurité. Cité par Antara, le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'entité juridique indonésienne BHI du ministère des Affaires étrangères, Yuda Nugraha Atanggang Banten, a déclaré jeudi 12 décembre qu'ils avaient été rapatriés par voie terrestre depuis la capitale syrienne Damas à Beyrouth, Liban. Ensuite, ils ont été transportés par avion commercial vers l'aéroport international Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, la plupart des vols transitant par Doha au Qatar. Yuda a déclaré que la majorité étaient des travailleuses migrantes qui travaillaient illégalement. La Banque asiatique de développement BAD considère que le ratio de la dette indonésienne au produit intérieur brut PIB est relativement faible et est donc convaincu que l'Indonésie est en mesure de rembourser les prêts qui sont accordés par BAD. Comme l'a rapporté Antara, le directeur de la BAD pour l'Indonésie, Jiro Tominaga, a déclaré jeudi 12 décembre lors d'une conférence de presse au bureau de la BAD à Jakarta qu'il n'y avait aucune inquiétude quant à la capacité de l'Indonésie à rembourser les prêts accordés par la BAD. Récemment, la BAD a accepté d'accorder un prêt d'une valeur de 500 millions de dollars américains, soit environ 7,93 billions de rupiah à l'Indonésie, afin de promouvoir l'inclusion financière. La promotion se concentrait sur l'amélioration de l'accès aux services financiers pour les groupes vulnérables, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, les femmes, les jeunes et les résidents ruraux. Auparavant, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que la dette indonésienne était relativement bien maintenue dans un contexte d'incertitude mondiale et de fortes tensions géopolitiques dans le monde. Jusqu'à fin juillet 2024, le taux d'endettement est tombé à 38,68%, ce qui signifie qu'il est encore bien en dessous de la limite de sécurité de 60%. Le ministre indonésien de la Défense, Syafri Syamsuddin, a reçu la visite de l'ambassadeur indien en Indonésie, Sandip Chakraborty, au bureau du ministère de la Défense à Jakarta, jeudi 12 décembre. Selon le site web du ministère indonésien de la Défense, la deuxième réunion a discuté de questions stratégiques, y compris la participation de l'Indonésie au défilé de la République indienne qui aura lieu le 26 janvier à New Delhi, en Inde. Au cours de la réunion, le ministre Syafri a exprimé sa profonde gratitude pour l'invitation faite au président Prabowo Subianto en tant qu'invité d'honneur de l'événement. Syafri a déclaré que l'Indonésie enverrait un contingent de 35 personnes comprenant des fanfares militaires et du personnel de soutien pour participer au défilé. Il a déclaré que le ministère indonésien de la Défense s'est engagé à préparer le contingent afin qu'il puisse donner la meilleure performance devant le gouvernement et le peuple indien. Syafri espère que la participation de l'Indonésie au défilé de la République d'Indonésie une profonde impression et renforcera davantage les relations et le respect mutuel entre les deux pays. Le gouvernement provincial de Papouasie a inauguré l'exposition commerciale à la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la zone notre PLB ENSCO, ville de Jayapura, Papouasie, jeudi 12 décembre. Comme l'a rapporté Antara, le gouvernement provincial de Papouasie espère que les activités menées au cours de ces trois jours pourront accroître la promotion des produits des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, ainsi qu'améliorer les relations de coopération économique et commerciale entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'officier par intérim de l'assistant pour l'administration générale du secrétariat régional de la province de Papouasie, Annick Rumbiak, à Jayapura, a déclaré jeudi que cette exposition commerciale impliquait 57 MPME Papou et 13 MPME de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon Annie, à travers cette activité, son parti espère améliorer les économies des deux pays et faire mieux connaître des produits de qualité supérieure. Il expliquait que le potentiel des produits des MPME existe déjà. Il suffit d'accroître la coopération étroite de toutes les parties prenantes afin que les portes de la région du Pacifique puissent être ouvertes au commerce indonésien. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Gouvernement américain invité à lever les sanctions contre la Syrie » avec moi, Audrey. Chers auditeurs, les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé au président Joe Biden de lever progressivement les sanctions contre la Syrie après la chute du régime du président Bachar al-Assad. Deux membres de la Chambre des représentants des États-Unis, Joe Wilson et Brandon Boyle, ont déclaré mercredi dernier, 11 décembre, que les États-Unis devraient modifier leur approche, les sanctions américaines contre la Syrie. Le gouvernement américain a également été invité à imposer des exceptions aux sanctions liées à la reconstruction, au développement économique et aux investissements étrangers.
en juin 2020 le César Act, qui contient des sanctions américaines contre la Syrie, a été mis en œuvre. L'impact a été dévastateur sur l'économie syrienne, en particulier dans les secteurs de la construction de la finance et de l'énergie, et a rendu difficiles les efforts de reconstruction. Selon Wilson et Boyle, la levée des sanctions construira une image positive des États-Unis en Syrie. En outre, cela contribuera à éliminer les groupes terroristes en facilitant l'accès économique et financier des citoyens syriens. Ils estiment que la chute du régime d'Assad offre une opportunité de contribuer à la stabilisation, à la reconstruction, aux investissements internationaux, au relèvement humanitaire et à la réintégration internationale en Syrie, ainsi qu'à la protection des intérêts de sécurité des États-Unis. Selon les deux membres du Sénat, cette approche doit être menée avec précaution et progressivement afin que le régime d'Assad et le groupe terroriste ne puissent pas accéder aux actifs et au système financier international. En dehors de cela, cette mesure pourrait également encourager le gouvernement de transition en Syrie à se conformer aux normes internationales. Ali Biljik, professeur de relations internationales et de politique du Moyen-Orient à l'université de Loughborough en Angleterre, a déclaré mercredi dernier à la BBC que pour les États-Unis, la chute du régime d'Assad était un signe positif après avoir constamment tenté de remplacer le gouvernement syrien directement ou indirectement depuis 2011. Cependant, le président américain Joe Biden a qualifié dimanche dernier, 8 décembre, la situation en Syrie de période pleine de risques et d'incertitude pour la région, la veuille. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, avait qualifié la série d'événements en Syrie de ne pas être la cause des États-Unis. Aujourd'hui, le régime d'Assad est tombé. Compte tenu des intérêts américains dans la région, il est temps pour Washington d'aider à maintenir la stabilité et la reconstruction de la Syrie. Sinon, peut-être qu'un autre joueur entrera. Washington dispose d'environ 900 soldats stationnés dans les zones de forage de pétrole brut dans le nord-est de la Syrie sous contrôle kurde. Les États-Unis disposent également d'une base militaire dans le sud de la Syrie. Bonne chance! Dans le processus de transition gouvernementale, le rétablissement de la stabilité et la reconstruction en Syrie. Bon déroulement afin que le peuple syrien puisse vivre en paix. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 13 décembre 1945, le massacre des troupes japonaises à Tebing Tinggi. Après la proclamation de l'indépendance indonésienne en août 1945, des jeunes indonésiens à Tebing Tinggi, à Sumatra du Nord, ont saisi les armes des soldats d'occupation japonais. À cette époque, ils avaient vraiment besoin d'armes pour conserver leur indépendance, notamment face aux forces alliées soutenues par les Néerlandais. Des tensions sont alors apparues, notamment lorsque les négociations entre le Japon et l'Indonésie à Tebing Tinggi n'ont pas abouti. Le 13 décembre 1945, les troupes japonaises encerclèrent la ville de Tebing Tinggi et massacrèrent les habitants. Environ 2000 habitants de Tebing Tinggi et 600 soldats japonais sont morts dans cet accident. Le 13 décembre 1957, l'Indonésie adopte la déclaration de Juanda. La déclaration de Juanda était une déclaration publiée le 13 décembre 1957 par le premier ministre indonésien de l'époque, Juanda Kartawijaya. La déclaration de Juanda stipule que les mers indonésiennes incluent les mers environnantes, entre et à l'intérieur de l'archipel indonésien, et non les zones libres. De cette manière, les îles et les mers indonésiennes deviennent un territoire indissociable de l'Indonésie. Cette déclaration a été acceptée et stipulée dans la 3e Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, en 1982. Depuis 2001, le 13 décembre est célébré en Indonésie comme la journée de Nusantara ou la journée de l'archipel. Le 13 décembre 1982, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 a secoué le nord de Yémen le 13 décembre 1982. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait près de la ville de Damar, environ 70 km de la capitale Sanaa. Ces tremblements de terre sont produits à plusieurs centaines de kilomètres de limite des plaques, dans une région géologiquement complexe qui comprend des volcans actifs et des crêtes du fond marin. Le tremblement de terre qui a secoué pendant 40 secondes et a rasé 11 villages et gravement endommagé 142 autres villages. Le tremblement de terre a causé la mort de 2800 personnes, fait 1500 blessés et endommagé des bâtiments proches de l'épicentre. Les chocs ont été ressentis jusqu'au Yémen du Sud et en Arabie Saoudite. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
There's no reason to feel alone. Together we stand. Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le gouvernement indonésien attire les investissements étrangers pour renforcer la recherche et l'innovation ». L'un des défis pour attirer les capitaux étrangers en Indonésie est le manque de recherche et de développement. La faiblesse de l'Indonésie dans le domaine de la recherche et du développement est liée à la capacité des ressources humaines qui ensuite en impact sur la qualité et la quantité de technologies, en particulier celles nécessaires à l'aval. C'est ce qu'a déclaré le député chargé de la promotion des investissements du ministère de l'Investissement et des questions en aval, Nur Ihwan, lors d'un atelier de journalistes organisé par la communauté de politique étrangère d'Indonésie, FPCI, en collaboration avec la Fondation coréenne à Jakarta, cité par Antara, 11 décembre. Selon Ihwan, il ne suffit pas de dire que l'Indonésie possède des ressources naturelles abondantes, mais l'Indonésie doit également s'interroger sur la capacité des ressources humaines à les transformer en naval. Ihwan a donné un exemple du produit des algues. L'Indonésie est le deuxième producteur mondial d'algues et est même le principal producteur d'algues tropicales. Cependant, l'Indonésie vient de produire la plus faible quantité de carrageenan ou extrait d'algues uniquement parce qu'elle ne dispose pas de technologie post-récolte pour ses algues. Selon Ihwan, si l'Indonésie dispose de la technologie et de la capacité nécessaire pour le traiter, ainsi, l'Indonésie peut fournir en aval des produits à base d'algues utiles aux industries pharmaceutiques et cosmétiques. Par conséquent, selon Ihwan, le gouvernement du président Prabowo Subianto, avec pour objectif d'atteindre une croissance économique de 8%, se concentrera sur l'augmentation de la recherche et du développement. Cela se fait en utilisant les recherches menées par de nombreux académiciens dans les universités. Les résultats de la recherche doivent ensuite être développés et adaptés aux besoins de l'industrie. À l'avenir, les petites industries pourront utiliser les connaissances et la technologie produite pour participer au processus en aval de divers produits de qualité supérieure. On pense que les efforts avec une vision à long terme peuvent attirer davantage d'investissements directs étrangers, par exemple en provenance de Corée du Sud, qui figure toujours parmi les 10 premiers pays avec la plus grande réalisation d'investissements en Indonésie de 2019 à 2024. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Membuatmu bahagia, haruskah aku biarkan semua menjadi nyata. Saat hatiku bergetar keras, ingin mengerti arti ucapmu. Air mataku mencari noda hitam dalam jiwaku. Mungkinkah aku yang salah, yang tak dapat membuatmu bahagia? Haruskah aku mengalah, membiarkan semua menjadi nyata?
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Canard Songkem de Madura, Java orientale, avec Maudry. Chers auditeurs, si vous visitez Madura dans Java orientale, vous devez essayer une variété de délices culinaires typiques de Madura à base de canard. L'un d'eux a été reconnu par le ministère de l'Éducation et de la Culture, Kemendikbud, de la République d'Indonésie comme patrimoine culturel immatériel, WBTB. Ce plat culinaire vient de Sampang, Madura, Java orientale, à savoir bebek songkem ou canard songkem. Chers amis, le canard songkem n'est pas frit, mais cuit à la vapeur. Pour fabriquer le canard songkem, on utilise généralement de jeunes canards âgés de 45 à 50 jours. Avant la cuisson, le canard est d'abord assaisonné d'épices composées d'ailes écrasées, d'échalotes, de piment et de sel. Ensuite, le canard est cuit à la vapeur dans un grand cuiseur vapeur. Fait unique, le canard songkem est cuit à la vapeur sans utiliser d'eau. Le fond du cormoran, généralement rempli d'eau, est remplacé par des morceaux de tiges de bananiers. Le canard est empilé sur des feuilles de bananiers et cuit à la vapeur et feu doux pendant environ 3 heures. Après la cuisson, La graisse du canard colle aux nervures séparées. C'est pourquoi le canard sonkem est classé comme pauvre en cholestérol. Au moment de servir, la viande de canard apparaît de couleur jaunâtre lorsqu'elle est mangée. La viande est si tendre et délicieuse. Le goût savoureux est épicé et si prononcé. Chers amis, le mot sonkem vient de la langue javanaise sunkam, qui signifie respecter les aînés. Dans les temps anciens, les canards sonkem étaient cuisinés comme souvenir pour les aînés. Le canard est cuit avec le cou et la tête courbée, comme un sonkem. Désormais, le canard sonkem peut être dégusté à tout moment. Il existe de nombreux restaurants à Bangkalan qui servent du canard sonkem. Le prix est relativement bon marché. Une portion de canard sonkem et de riz coûte entre 25 000 et 30 000 de roupies. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Bali, meilleure destination de lune de miel 2024, avec moi Audrey. Ce jour, l'île de Bali continue de maintenir sa réputation comme l'une des meilleures destinations de lune de miel au monde. Sa beauté naturelle fascinante, sa riche culture et les services luxueux disponibles font de Bali le choix idéal pour les couples cherchant à célébrer leur amour. En 2024, Bali sera à nouveau à l'honneur en tant que destination de lune de miel, offrant une expérience inoubliable. Plus récemment, Bali a été nommée destination la plus romantique au monde lors des World Travel Award 2024. TripAdvisor a également désigné Bali comme la meilleure destination de lune de miel dans le cadre du prix Traveler Choice Best of the Best 2024. Ce jeu d'art, de plus, Bali a également été choisi comme la meilleure île pour une lune de miel selon une étude de la compagnie d'assurance voyage InsureMyTrip.com publiée en avril 2024. Bali figure sur la liste des 10 meilleures îles d'Asie 2024, Top Islands, Reader's Choice Award 2024, version des médias de voyage de New York, États-Unis. Conde Nice Traveler. Bali offre en effet plusieurs choix parfaits pour les couples mariés qui souhaitent profiter de leur lune de miel et célébrer le nouvel an dans un lieu plein de charme et de chaleur. Chaque jour, il existe différents choix de lieux de lune de miel à Bali, notamment Ubud, Seminyak, Uluwatu, Nusa Penida et Nusa Ceningan. Célèbre pour son atmosphère calme, Ubud offre une expérience romantique en pleine nature. Les couples peuvent profiter de villas au milieu des rizières, de spas traditionnels et de spectacles d'art balinais. Seminyak est le bon choix pour les couples qui aiment une atmosphère moderne avec une rangée de restaurants de luxe, de clubs, de plages et de boutiques. Uluwatu, avec ses autres falaises et ses plages exotiques, Uluwatu convient aux couples qui souhaitent profiter de l'intimité et de vues spectaculaires. Les petites îles de Nusa Penida et Nusa Lembongan sont l'endroit idéal pour profiter de la beauté sous-marine, des plages immaculées et des moments de calme loin des foules. Bon chargeur d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Begitu rumit antara aku dan dia. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi, Audrey. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson pop régionale de Bali intitulée Sesapi Putih. Chers amis, cette chanson a été écrite par Pandé Sudana et il est devenu populaire dans les années 1990 grâce à la performance époustouflante de Widi Widiana. Avec des accents mélodieux et un accompagnement d'instruments de musique typiquement balinais, Sesapi Putih est souvent chantée lors de divers spectacles de Janger, à la fois dans les écoles et dans les banjars de l'île des dieux. Les paroles de Sesapi Putih racontent l'histoire d'une hirondelle blanche volant au-dessus d'une fleur de lotus bleu, symbole de l'espoir que la fleur restera parfumée et ne se fanera pas. En profondeur, cette chanson contient un message figuratif sur le rôle des parents pour empêcher les jeunes femmes de sombrer dans de mauvaises relations. Sesapi Putih est encore souvent reprise aujourd'hui, notamment par le fils de l'auteur-compositeur, Ayu Pandé, qui a collaboré avec Widi Widiana pour donner une nouvelle couleur à cette chanson. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Sesapi Putih, chantée par Widi Widiana et Ayu Pandé. Bonne écoute!
Rasa tan sida, ragan beli pacangan sapa. Gas beli ketemu sareng di ring taman sari. Pertemuan diraga katipan sayang.
Tres nering taman sari, kadirasang anyo den manah tiang.
Tres nering taman sari, tan si depacang belingan sabang. Taman sari ento pina kesaksi tresnan beline kenanti tong tinggal jadi bulan purnama sampun endak mina siang pertemuan iraga
biur ngelenco ya tamane ngerapet ke hulu
terkesarengin kenyir manis lan kedipan sayang. Mansari tan si depacang belingan sabang dong tinggalin jadi bulan purnama sampun endak minap girang nyaksian pertemuan iraga sayang.
Tres nering taman sari, kadirasang anyu den manah tiang.
Tres nering taman sari, tan si depacang belingan sabang.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.